très amoureux du jazz. Marie-France Guimard-Roche a le très grand plaisir de vous présenter Jazz Rétro. Dans cette pépite découverte dans la librairie Salon de thé, la Porte Saint-Michel, d'Edith Guimard, ma cousine à la mode de Bretagne, à Bécherel, en Bretagne justement, je veux parler du livre de Raymond Orix, préfacé par Franck Thénault, Jazzmen d'aujourd'hui, édité le 30 septembre 1960 par Bûcher Chastel. Dans ce livre donc, un chapitre est consacré à Thelonious Monk, que nous retrouvons aujourd'hui. Orix raconte sa soirée à Paris, qui avait commencé c'est Salle Pleyel avec un concert mémorable. Le concert terminé, la plupart des musiciens, des journalistes et des auditeurs se retirèrent dans le cabaret enfumé de la Salle Pleyel pour entendre là un jazz moins officiel et avoir le privilège d'occuper quelques centimètres carrés d'un plancher très recherché, en buvant de la bière glacée à 700 francs la bouteille, et je pus de nouveau observer Thelonious en action. Cette fois, il jouait en jam session avec le quartet de Jerry Mulligan, groupe ordinairement sans piano. Monk supprima quelques harmonies et bouleversa complètement le jeu des autres musiciens. C'était sans doute une des manières les plus chaotiques qu'on ait eu de jouer au piano. Tout s'arrêta, aussi brutalement que cela avait commencé. La femme de Mulligan vint dire à celui-ci que la plaisanterie avait assez duré et qu'il ferait mieux de remballer son sax et de laisser tomber. Tandis que les chaussettes bleu ciel quittaient la scène, je fus entraîné au bar par le trompettiste Jonah Jones, le moins instable des solistes jouant au Salon du Jazz cette année-là. Jonah mâchonnait l'extrémité de son cigare, pompait un grand verre de limonade et se plaignait que son docteur lui eût interdit le whisky. « J'étais l'homme d'une bouteille par jour, me dit-il, et quand le docteur a posé son machin en tube sur ma poitrine, il a dit que je ne méritais plus d'être vivant. » Entre quelques remarques d'ordre médical, il rappela l'époque où il avait joué dans l'orchestre de Cap Calloway. D'un coup, Monk apparaît près de nous avec Charles Delaunay. « Eh vieux, t'es battement fringué !» ironisa Jonah. Et à coup d'épaule, il fit un peu de place auprès du bar pour les nouveaux arrivants. Sa remarque fut accueillie par un sourire gigantesque, mais sans un mot. En même temps, comme s'il avait eu besoin de vérifier le compliment de Jonah, le pianiste examina son costume. Puis, aussi brusquement qu'il était apparu, il s'enfonça dans la foule. Ce soir-là, à Paris, j'avais été à deux doigts d'obtenir enfin une conversation cohérente avec de Thelonious Monk. Plus tard, je le croisais en train de s'entretenir avec vivacité avec Delaunay. Mais autant que je sache, tous ceux qui ont cherché à lui parler se sont écrasés contre le même mur. Je me souviens de Steve Race, attendant Charlie Parker pour l'interviewer au Festival de Paris de 1949. Au lieu de s'engager dans une discussion sur la musique, Charlie insista pour lire à haute voix des poèmes d'Omar Khayyam. En tout cas, Steve Race avait pu entendre le son de sa voix. Monk, lui, était l'image même de la solitude. Un homme dédaigneux de toute louange, comme de toute critique, de toute communication. Le lendemain, le critique allemand Joachim Behrendt entraîna Monk dans sa chambre d'hôtel pour se contenter de l'entendre discuter avec intelligence de choses sans importance, de sa robe de chambre en soie par exemple, et répondre un « oui, c'est ça » évasif à chaque fois qu'un sujet sérieux, racial, social ou autre était abordé. Behrendt suggéra ensuite que Monk était considérablement intimidé par l'Europe, qu'il éprouvait un grand besoin de protection. Et cela expliquerait peut-être pourquoi le pianiste buvait comme un trou et s'habillait comme il le faisait à Paris. Être intimidé par l'Europe a constitué une attitude typiquement américaine, même à notre époque. Henry James parle assez souvent de l'Américain innocent et de l'Européen sophistiqué. Pour l'homme, à travers les âges, jouer la comédie, évidemment, a été une défense contre le sentiment d'insécurité. Deux soirs plus tard, j'assistais au second concert de jazz moderne du salon. Il y avait cette fois le quintet de Geo Dalli, Thelonious, l'orchestre de Kurt Edelhagen et le quartet de Jerry Mulligan. Après un morceau sans prétention de Dalli, Monk s'avança sur scène pour se voir accueillir par un déchaînement de gestes sans équivoque. Mais une telle démonstration était superflue, absolument transfigurée. Calme et résolu, il joua au piano du moderne avec une inventivité inhabituelle. Son jeu était définitif. Sa recherche de nouvelles structures harmoniques sans bavure. Son développement rythmique, clair, direct et déférent pour ses accompagnateurs. Bref, c'était un musicien sûr de soi et sûr de sa maîtrise du jazz. Ainsi se parachève l'énigme que représente Thelonious Monk. Le rideau va se lever sur l'autre face de sa nature, le Jekyll que cache ce Hyde. Comme on peut s'y attendre, écrit Raymond Orix, les opinions se sont trouvées très divisées sur Monk et sa musique. On a lancé sur lui les plus grands anathèmes. Pour Leonard Fizer, défendeur des traditions et auteur de Inside Bebop, la place du pianiste dans le jazz a été démesurément grossie par une publicité de grande envergure. Il a écrit quelques morceaux attachants, mais son manque de technique et de persévérance l'a empêché d'accomplir davantage en tant que pianiste. Pour Hugues Panassier, il n'a rien été d'autre qu'un musicien excentrique qui s'est écarté du droit chemin du jazz. Très significatif semble être l'ennui que manifesta le trompettiste Miles Davis lorsqu'on choisit Monk pour l'accompagner lors d'une session d'enregistrement en 1954. Davis insista même pour que le pianiste fût assis loin derrière les solistes. « Vous connaissez la façon de jouer de Monk », protesta-t-il plus tard auprès de Léonard. « Il ne vous soutient jamais. Le jour où il participa à l'enregistrement, j'ai dû me donner un mal fou pour arriver à le faire jouer avec les autres. J'aime bien l'entendre jouer, mais je ne peux pas le supporter derrière moi dans une section rythmique, à moins que l'on interprète un morceau à lui. » Miles, Round Midnight. Viennent ensuite les partisans de Monk, et dans l'ensemble, ce sont des hommes qui méritent le respect. Chez le pianiste, on peut voir aujourd'hui une photo dédicacée de Dizzy Gillespie qui dit « À mon inspiration ». Et le frère en musique de Gillespie, Charlie Parker, chaque fois qu'on le questionnait sur les débuts du jazz moderne, attribuait toujours à Monk une place importante. Nat Entoff a écrit que Monk était une individualité immédiatement identifiable dans un monde musical qui avait été davantage marqué par l'omniprésence de ses miroirs que par ses points de repère d'une espèce unique. Randy Weston, le pianiste qui se rapproche sans doute le plus de Monk par ses conceptions, a dit « Son importance dans la musique moderne ne peut être exagérée. Tout m'impressionne chez Monk, ses compositions. » Les mélodies et les rythmes qu'il crée. Une chose que j'ai toujours trouvée importante est la manière dont vous prenez conscience du temps chez Monk. Et puis, il y a ce que j'appellerais sa simplicité. Non que sa musique ne soit pas très complexe, bien sûr elle l'est. Mais elle nous parvient de manière si claire, épurée, dépouillée, non comme chez certains musiciens d'aujourd'hui qui ont tendance à bavarder, mais où rien n'arrive. Toutefois, s'il est des défenseurs de premier plan pour la musique de Monk, ceux-ci n'ont point fourni d'explications sur la conduite de l'homme Monk. D'autres voient en Monk un homme très avisé et qui, derrière une sorte de masque de comédie, sait très bien où il va. Harry Colombi, par exemple, impresario, raconte combien le pianiste à l'école était brillant en mathématiques et en physique. Ceci a dû jouer un rôle dans la formation de Monk comme compositeur et dans le sens de la mesure absolument unique qui se manifeste chez lui. Tout dans sa musique appartient à un pianiste très conscient. Maïl Williams a été une fidèle admiratrice de l'œuvre de Thelonious et elle nous assure que tout ce qu'il a fait, il l'a fait délibérément, que sa nouvelle façon d'agir et de jouer s'est manifestée subitement. Marie-Lou rappelle les jours de Kansas City pendant les terribles années 30, où Monk, qui n'avait alors pas encore 20 ans, vint en ville avec la parade d'un évangéliste ou d'un médecin, je ne sais plus lequel des deux. Elle se rappelle aussi à qui assez. Il improvisait toutes les nuits et passait vraiment tout son temps à jouer du piano avec beaucoup plus de technique qu'aujourd'hui. Monk joue comme il le fait actuellement parce qu'il s'en croûte. Je sais comment Monk peut jouer. Il sentait que les musiciens devaient jouer quelque chose de nouveau et il a commencé à le faire. La voici, Marie-Lou Williams, à son piano. Il se peut aussi que Thelonious Monk, comme Joss Gary le souligne à propos de Jimson dans la préface de son livre, soit lui-même un créateur et ait vécu toute sa vie comme une œuvre esthétique et ainsi comprenne et se souvienne perpétuellement que dans un monde en création continue, il n'est point de justice. L'artiste original qui mise sur la compréhension le succès est un imbécile. Il peut avoir la chance d'être poussé par quelques vents favorables venus vers lui d'un critique sympathique. Il peut être admiré et récompensé pour ce qu'il ne fait pas, mais pour ce qui fait son originalité au train où vont les choses, il devra attendre bien, bien longtemps avant d'être compris. Car il doit créer non seulement son œuvre, mais aussi son public. Bien plus, comme le souligne Carrie, quiconque a fait la guerre connaît ce genre de type qui soudain se met à plaisanter la nuit qui précède l'attaque, juste avant de monter en première ligne. Un artiste original est toujours en train de monter en première ligne à travers un no man's land, et il sait qu'il n'obtiendra probablement rien pour sa peine et son effort, sinon de mourir fusillé. Puis viendront l'abandon et l'anonymat d'une tombe. D'autre part, bien qu'il ait exprimé le désir de voir le public apprécier sa musique, Thelonious Monk n'a jamais dissimulé son mépris pour le niveau d'intelligence supposé de ce même public, pour le public américain en particulier. Discutant de baseball, il ne s'en est jamais soucié, avec Kira Gittler, le pianiste fit quelques remarques. « C'est le seul jeu assez lent pour que le public y trouve quelque chose. Voilà ce que je pense. C'est assez lent pour le public. Le tennis va beaucoup trop vite pour lui. » Et un jour, il a dit à Coleman Hawkins, « Tu sais, tu ne m'as jamais expliqué comment ces gens, ces vieux schnocks et tout le monde pouvaient se déranger pour ton enregistrement de Body and Soul. C'est une chose que je ne pigerai jamais parce que moi, j'ai écouté le disque. Je pourrais comprendre si tu faisais de la mélodie car ils aiment ça, cette sorte de gens. Ils aiment la mélodie. » Sûr qu'il n'écouterait pas autre chose, du vrai jazz. Coleman Hawkins, Body and Soul. Né à New York en octobre 1920 et baptisé Thelonious Sphere, s'est rarement aventuré hors de sa ville natale au cours de sa carrière de musicien. L'ancien chef d'orchestre, Teddy Hill, fit sa connaissance quelque temps avant que les jam sessions n'aient commencé au Minton's Playhouse, le refuge des musiciens. Du 118 Wet Street, où au cours des années 41-42, le nom du pianiste fut accolé à ceux de Charlie Christian, Jimmy Blanton et Kenny Clarke, et quelquefois Dizzy Gillespie, Joe Egy, Indres Suliemann, Denzil Best, Clyde Hart, John Collins et quelques autres. Il dirigeait encore son orchestre lorsqu'il rencontra Monk pour la première fois. Dizzy Gillespie jouait alors comme troisième trompette dans l'orchestre de Hill et il s'arrangeait pour que celui-ci fût confié souvent au pianiste dans différentes jam sessions des environs de New York. À l'époque où Teddy avait abandonné son orchestre et dirigé celui du Minton, il s'intéressait à la manière dont les jeunes musiciens forgeaient un nouveau style de jazz. Il garda Thelonious comme pianiste attitré et Kenny Clarke comme batteur. Son action fit du Minton's House le lieu de prédilection du nouveau jazz. Après le travail, tous les types se mettaient à improviser, rappelle Mary Lou Williams, et bientôt, vous ne pouviez plus rentrer au Minton tant il y avait de musiciens et d'instruments. Monk est vraiment quelqu'un, confia un jour Hill à un reporter. C'est le genre de type qui pense à un tas de choses mais qui n'en a pas beaucoup à dire. Fichtre, j'ai connu un tas de musiciens qui étaient des numéros, mais aucun comme lui. On croirait jamais qu'il est là, jusqu'au moment où il se met à vous parler. Et quelquefois, au beau milieu d'une conversation, son esprit trotte ailleurs. Il peut continuer à vous parler, mais il pense à quelque chose d'autre. Quand il jouait au Minton, l'orchestre avait l'habitude de se mettre au travail à 10h. Il serait venu à 9. Mais à 10h précises, vous ne l'auriez pas trouvé. Une heure plus tard, vous l'auriez peut-être découvert assis tout seul, dans la cuisine, quelque part, en train d'écrire, et l'orchestre qui jouait ne lui faisait ni chaud ni froid. « Je ne l'ai pas entendu, vous aurait-il dit. Il m'a toujours déplu, et pourtant vous n'auriez jamais trouvé un type plus sympathique. Des tas de fois, j'aurais été heureux de l'embaucher comme pianiste dans mon orchestre. Mais je ne pouvais pas compter sur lui. Tout le monde aime le bonhomme. Dizzy ou Kenny Clarke m'ont dit qu'ils auraient pris sur eux d'amener le type à l'heure si je l'avais engagé. Ils en étaient tous entichés. Tout le monde en voulait. Mais tout le monde en avait peur. Il était trop indépendant. Il n'aurait fait que mettre la pagaille partout chez moi. » Avec Thelonious Monk à son piano, Marie-France Guimard-Roche vous dit au revoir et à bientôt pour un nouveau numéro de Jazz Rétro enregistré et réalisé par Émilie Glory avec recherche de discographie dans les studios du Rocaz de Radio Grand Ciel.